Nous avions laissé la dernière fois Jésus, alors qu'il venait d'instituer le sacrement de l'Eucharistie, le jeudi soir, après avoir célébré la Pâque juive, comme il le fait chaque année avec les apôtres, modifie le dernier rituel, la dernière coupe, le dernier pain, et récite sur ce pain et sur ce vin, les paroles de la consécration, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Puis il quitte le cénacle pour l'agonie et pour le lendemain, sa mort sur la croix. Ce qui est impressionnant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment l'Église, dès le début, dès les premiers instants de la naissance de l'Église, a pris conscience du trésor qu'elle avait entre les mains, a compris que ce qui s'était passé ce jeudi soir n'était pas à mettre au même niveau que les autres actions du Christ. Son trésor était là. Dans cette phrase de Jésus, faites ceci en mémoire de moi, qu'elle avait en son sein la présence de Dieu, une présence toute spéciale, une présence réelle qui allait l'accompagner durant toute son existence. Lorsque Jésus dit, juste avant de monter au ciel, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, cette affirmation n'est pas simplement une présence spirituelle. C'est plus. C'est le mystère de l'Eucharistie. Que l'Église, à partir de la mort du Christ et dès son ascension, va célébrer quotidiennement, prenant conscience petit à petit et très rapidement qu'elle a entre les doigts le corps du Christ, qu'elle vit chaque jour quand elle célèbre l'Eucharistie. Le sacrifice du Christ. Et cette vérité fondamentale, cette double vérité, la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, et le fait que l'Eucharistie est un sacrifice, c'est le sacrifice du Christ renouvelé, cette double vérité ne va cesser de l'accompagner tout au long de son enseignement, tout au long de l'histoire de l'Église et jusqu'à aujourd'hui. Et l'un des aspects de ce que je veux montrer aujourd'hui, c'est à quel point cette doctrine est restée la même. De manière d'unité extraordinaire depuis l'an 70 après Jésus-Christ, quelques années après l'Ascension, jusqu'à aujourd'hui en 2021, en 2019. En 2019. Et ça, je trouve ça impressionnant. Avant d'entrer la prochaine fois dans l'étude un peu spécifique de la présence réelle, du dogme de l'Eucharistie, je voudrais faire aujourd'hui un rapide regard historique sur l'évolution de la doctrine sur l'Eucharistie. On avait fait ça l'an dernier, avant de rentrer dans le mystère de la grâce, avec plein de flèches de partout et des lignes et des colonnes. Avant, on avait regardé un petit peu comment tout cela s'était mis en place à travers l'histoire de l'Église, notamment vers les hérésies, la réponse aux hérésies. Je pense que c'est pas mal pour vous donner quelques points de repère, lignes de conduite, savoir ce qu'il faut croire, tout simplement, afin de ne pas trop errer, de ne pas trop se tromper la prochaine fois. Il y a aussi que là, on est dans la chapelle, j'ai pas de petit tableau sous les mains, et la prochaine fois, je vous ferai plein de flèches. Et tout ça pour expliquer un peu mieux le mystère de la présence réelle. Donc, on va faire un petit peu l'histoire de l'Église, l'histoire du dogme de l'Eucharistie dans l'Église, pas l'histoire des rites. D'abord, parce que je ne suis pas très compétent dans ce domaine-là, je ne suis pas liturgiste, trop complexe, ça me prendrait un temps énorme d'étudier l'histoire des rites. Mais l'histoire de l'enseignement de l'Église sur l'Eucharistie, qui vous allez le voir, a une influence sur les rites. La façon dont l'Église prie, tout au long des siècles, correspond à sa foi profonde. Il y a ce grand une devise, comment on appelle ça, une devise, l'axio, voilà, l'ex orandi, l'ex credendi. La loi de la prière, c'est la loi de la foi. Très important. C'est-à-dire que il y a une influence mutuelle entre la foi de l'Église et la façon dont elle prie. C'est parce que l'Église a approfondi sa foi dans l'Eucharistie qu'elle a fait évoluer sa prière eucharistique et la façon dont elle prie l'Eucharistie. Et on le verra, peut-être pour le coup au deuxième trimestre, comment l'approfondissement de la croyance dans la présence réelle a amené avec lui une modification de la manière de célébrer la messe, le rite de la communion, quelque chose de ce genre. La foi oriente la prière. Et inversement, la prière oriente la foi. Parce que la manière dont je prie, les actes que je pose, disent quelque chose, me parlent, parlent à l'intelligence. Et vont m'aider à mieux croire. Ou au contraire, m'éloigner de la foi. Je crois qu'il ne faut pas minimiser ce lex orandi, la loi de la prière, et notamment tout l'aspect des rites sensibles et extérieurs, à travers lesquels je manifeste quelque chose. Ce n'est pas sans répercussion sur la foi. Je vous racontais cette histoire, voilà, c'est pas une vraie histoire, mais je la trouve bien, dans le livre de Vladimir Volkov, Le Traître, que je vous invite à lire, qui est passionnant. C'est un agent du KGB qui rentre au séminaire et devient prêtre pour infiltrer l'Église et qui célèbre la messe donc sans y croire. Il la célèbre pendant 40 ans. 40 ans, en mode orthodoxe, il dit, il pose les gestes, une génuflexion, une inclination, une prosternation devant un morceau de pain, de ce qu'il croit être un morceau de pain, parce que, comme il dit, les paroles de la consécration validement, ça devient vraiment le corps de Christ, parce que vous avez compris, on le verra. Donc c'est vraiment la messe à l'angle de la vie, mais lui, il ne croit pas. Mais à force de poser ces gestes-là, un matin, il est par la consécration, génuflexe, et il se redresse et dit Jésus, vous êtes là. Et il a la foi. Et oui, la loi de la prière, la façon dont on prie, oriente et accompagne notre foi. Troisième amour. Ce que je veux essayer de mettre en lumière aussi, dans ce rapide parcours, c'est l'importance du magistère de l'Église, dont on ne tient plus aucun compte aujourd'hui. Et c'est bien malheureux. On a l'impression que la foi est devenue une affaire personnelle de comment est-ce que moi j'ai compris le mystère, comment est-ce que moi je me place par rapport à tel ou tel aspect de la foi, et qu'on oublie de regarder ce que l'Église en pense. Je suis assez surpris dans les différents, sur les réseaux sociaux notamment, pose parfois des questions, comment est-ce que vous allez, comment vous expliquez à un non-chrétien, ou comment est-ce que, qu'est-ce que vous dites à un non-chrétien sur la messe, sur l'Eucharistie, sur la confession, sur tout ça. Toutes les réponses, c'est « moi, je vois tout plutôt comme ça. Moi, je pense que la messe, c'est plutôt partage. Moi, je pense que la messe, c'est plutôt sacrifice. Moi, je pense que la messe, on s'en fout de ce que tu penses. » Que pense l'Église? Et j'insiste, que pense l'Église? Parce que c'est ça, la foi. Et toi, tu as à adhérer à la foi de l'Église. C'est très. C'est pas moderne, hein, comme manière de faire. Mais c'est essentiel. C'est essentiel d'avoir cette humilité de dire que c'est pas moi, né il y a 20, 30 ans, qui vais expliquer ou résumer ce que l'Église a mis 2000 ans à comprendre. Et ce que l'Église d'ailleurs a reçu du Christ, elle. Moi je reçois l'Église. Moi Jésus, je ne l'ai pas vu. La foi, c'est l'Église qui l'a vu. On a l'impression qu'il y a une séparation, que le magistère, les encycliques, l'enseignement des papes et des conciles, tout cela ne compte pour rien dans la foi des fidèles. Et c'est une mentalité très très moderne, et qu'il pourra prouver, je ne mets à coup pas, chez les modales ou chez les tradis. Alors les tradis, c'est plus par défiance envers le magistère actuel, on va dire là, faire confiance au pape. Les papes et les papas, hein, finalement, l'autorité de l'Église, elle compte. Elle compte réellement. Elle ne varie pas selon si j'aime le pape ou pas. La question, ça va être, est-ce que, de distinguer les degrés d'autorité du magistère, à quel quel niveau se place ce texte-là, et est-ce qu'il est dans un critère intéressant avec la continuité. L'Église est une, sa foi est une. Et donc je vais essayer, moi, en tant que chrétien, de voir une continuité, de travailler une continuité à travers le magistère. Mais le traduit a un peu cette réaction de magistère récent, on fait gaffe. Tandis que le moderne, voire plutôt un peu la même réaction, mais à l'inverse, de la foi et de l'affaire personnelle. C'est très protestant comme manière de voir les choses. Le magistère est pour vous la référence de votre foi. C'est le lieu de votre foi. Et donc avant de se poser des questions sur un sujet théologique, il est essentiel d'aller voir ce que dit l'Église, de recevoir ce que dit l'Église. Si vous ne voulez pas recevoir ce que dit l'Église, vous n'êtes pas catholique. C'est un choix, hein, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas catholique. Et ayant reçu ce que dit l'Église, après on approfondit, et on cherche, et on fait vraiment la théologie. On fera la prochaine fois. Mais avant, essayons de recevoir. Parce que l'Église, c'est pas n'importe qui. L'Église, elle a assisté à la première scène. L'Église, c'est les apôtres. Et ce qui découle des apôtres. Et l'Église, elle a reçu une mission de conserver le dépôt de la foi et de vous l'apporter à vous en 2019. Et cette assistance, c'est le Saint-Esprit qui opère en vous. Il y a un mystère de l'Église, une foi à voir dans l'Église. Ce que dit l'Église, ben j'y vais. Vous voyez, cette attitude, il faut vraiment la faire naître en nous. Cette fidélité au magistère, cet attachement à ce que dit l'Église, et qui est une boussole pour la foi. C'est vraiment important. Voilà. Commençons donc. Je vous ai mis quelques textes d'abord, des pères de l'Église. Je ne vais pas pouvoir m'y attarder longtemps, malheureusement, alors que c'est extraordinaire, passionnant, très important de regarder ce que disent les pères de l'Église. C'est eux qui ont reçu l'enseignement du Christ, qui sont les témoins de la tradition des apôtres. Ils ont connu les apôtres, ils ont reçu ce que les apôtres leur ont dit, et ils arrivent et ils nous disent des choses. Les pères de l'Église, c'est quelque chose d'essentiel dans la composition du dogme catholique. Il n'y a pas de concile avant 325 après Jésus-Christ, à cause des persécutions. Donc il n'y a pas d'enseignement dogmatique de l'Église, des belles formules bien résumées par tous les évêques ensemble, avant 325. En revanche, il y a les pères de l'Église, dont les trois premiers, la Didache, c'est un livre, Saint Clément de Rome, Saint Ignace de Antioche, ont connu les apôtres. Ont connu, ont fréquenté les apôtres. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Et donc, on a, avec les pères de l'Église, la façon dont l'Église des premiers siècles croyait, vivait sa foi, célébrait la messe et comprenait le mystère de l'Eucharistie. Et déjà, vous voyez, la Didache, premier texte, 70 et 90 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, le jour du Seigneur, rassemblez-vous pour la fraction du pain de l'Eucharistie et l'Eucharistie, après avoir confessé vos péchés pour que votre sacrifice soit pur. Je dis bien là, vous voyez bien, c'est marqué. Dès les toutes premières années du christianisme, on a compris, c'est pas quelque chose qui a apparu avec le Concile de Trente, on a compris que la messe, fraction du pain, c'était le sacrifice de l'Église. Ce sacrifice est bien, en effet, celui dont a parlé le Seigneur, quand tout lieu et en tout temps, on offre un sacrifice pur, c'est une citation de Malachie, prophète, car je suis le grand roi, dit le Seigneur, et merveilleux, et mon nom chez les nations. Dès le début, et ça ne changera pas d'un iota, la messe, l'Eucharistie est compris comme étant le sacrifice des chrétiens. De même que l'Ancien Testament a son sacrifice ou ses sacrifices. De même que toutes les religions ont leur sacrifice, la religion chrétienne du Christ a son sacrifice. Et c'est la fraction du pain. C'est l'Eucharistie. Nier cela, ou le mettre de côté, c'est mettre de côté l'enseignement constant de l'Église. Depuis l'an 70, 30 ans à peine après l'ascension du Christ. Donc voilà, c'est sérieux. Cinquième endroit,
Ce n'est pas partout qu'on offre le sacrifice perpétuel, mais c'est sur l'autel qu'on l'offre. Parce que vous réalisez, quand vous venez à la messe, que c'est le sacrifice des chrétiens, que ce qui est laquelle vous assistez. Ça, c'est pour l'aspect sacrifice, très, très, très clairement défini dès le début, et pour l'aspect sacrement, eucharistie, présence réelle, Saint Ignace d'Antioche, et donc soin de ne participer qu'à une seule eucharistie, car il n'y a qu'une chair de notre Seigneur Jésus-Christ, et un seul calice pour nous venir dans son sang, un seul autel, comme un seul évêque, avec le presbytérium et les diacres. Je ne développe pas toute la richesse qu'il y a là-dedans, on voit clairement l'affirmation corps et le sang du Christ dans l'eucharistie. On voit aussi l'idée de l'unité qui jaillit de l'Eucharistie, je l'ai dit, un des effets. L'effet premier de l'Eucharistie, c'est l'unité du corps mystique. C'est l'unité de l'Église, c'est la charité. Parce que quand vous communiez, vous êtes tous unis au même Seigneur, et donc vous ne faites plus qu'un seul corps entre vous. C'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Sans Eucharistie, plus d'Église, c'est la fin du monde. Je le dis aussi. La fin du monde, mais cette idée de communion, d'unité dans l'Église, de partage, de tout ça, elle est réelle dans la foi, mais elle passe par l'Eucharistie. C'est vous tous unis avec le seul Seigneur, qui êtes du coup tous unis entre vous. Il est là l'un des mystères, l'un des aspects du mystère de l'Eucharistie, sur lequel on insiste pas mal aujourd'hui, pour reconnaître. Saint Ambroise de Milan, tu sais donc que le pain est changé au corps du Christ, et que la consécration opérée par la parole céleste en fait du sang, du vin. Avant les paroles du Christ, le calice est rempli de vin et d'eau, mais dès que les paroles du Christ ont agi, cela devient du sang qui a racheté le peuple. Vous voyez, le côté réaliste, ça devient du sang, ça devient le corps de Jésus. Saint Chrysostome sur le sacrifice, très éloquent aussi, il n'y a toujours qu'un seul sacrifice, maintenant encore nous offrons la victime qui fut alors offerte et qui ne se consumera jamais, qui ne se consumera jamais. Et je vous ai aussi Théodore de Mopsuète, qui est peu connu, mais en fait qui est très repris dans tous les textes du magistère, parce que c'est peut-être le plus clair sur la présence réelle à l'époque patristique. Remarquons que le Seigneur dit sur ce pain, non pas ceci est le symbole de mon corps, mais ceci est mon corps. Et sur le calice, il ne dit pas non plus ceci est le symbole de mon sang, ceci représente mon sang, symbolise, signifie mon sang, mais ceci est mon sang. Vous voyez l'insistance, dès le début, pour ne pas faire de l'Eucharistie un symbole, pour ne pas faire de l'Eucharistie uniquement un symbole. Faites bien attention, il y a un aspect symbolique dans les sacrements. On l'a dit, les sacrements sont des signes. Le pain, les apparences du pain que je vois après la consécration ressemblent à du pain. Ça a le goût du pain. Ce sont un signe qui me désigne autre chose, d'invisible. Mais est-ce que ça me désigne? Ce n'est pas uniquement une présence spirituelle de Jésus, ou un amour de Jésus, ou un don de Jésus. Ça me désigne, vérité de la phrase, ceci est mon cœur. Le signe sacramentel dans l'Eucharistie n'est pas un signe purement symbolique, c'est un signe symbolique et réalisateur de ce qu'il symbolise. Un sacrement, ce qu'il signifie, il le fait. Voilà ce qu'on avait vu un peu, on avait étudié les sacrements, mais important de le rappeler ici. Foi de l'Église, dès le début, c'est de croire dans la vérité de la parole, c'est Jésus. Tiens, tout est là. On avait dit, c'est un petit enfant qui veut faire sa première communion. La seule chose qu'il peut dire, c'est l'hostie, c'est Jésus. En fait, il a tout dit. Il peut faire sa première communion. C'est Jésus. C'est le cœur du Christ. C'est son corps. C'est le Seigneur. Voilà l'affirmation de la foi. Et ensuite, à partir de là, on va essayer de ne pas trop s'éloigner de l'affirmation de la foi en expliquant. Mais c'est ce qu'il faut garder absolument. Dès que ce que j'ai devant moi, on le prête l'élève au-dessus de sa tête après avoir la consécration, c'est le Seigneur. C'est ça ce que l'Église a compris dès le début, comme étant son trésor, qu'il fallait absolument conserver, et ce qui va être vraiment mis en péril à travers certaines hérésies. Pour le moment, tout va bien. C'est assez surprenant d'ailleurs. Autant le mystère de la Trinité va être attaqué dès les premiers siècles, le mystère de l'incarnation aussi, le mystère de la grâce et les débats des saints Augustin, autant le mystère de l'Eucharistie, jusqu'au 9e siècle, tout le monde est bien d'accord pour dire c'est le corps de Christ. La vérité de la parole, on ne se prend pas la tête, il est là, c'est pas symbolique, c'est réel. Et c'est au 9e siècle que quelqu'un de complètement inconnu au baptême rattrape de Corbie. Si vous connaissez, dites-le-moi, parce que c'est impressionnant. Rattrape de Corbie, 9e siècle, se dit que le sacrement du pain et du vin, en fait, c'est un symbole. Vous n'avez jamais compris comme ça. Que c'est un symbole du Christ, mais qu'il ne contient pas en vérité réellement le Christ. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est mystérieux. C'est mystérieux. Pour élancer une explication, c'est que, en effet, c'est dur d'affirmer que c'est le corps de Christ. Puisque tout, l'apparence, me montre bien que ça ressemble, ça a le goût du pain, ça. Et ce n'est pas par ma raison, par ma réflexion que j'arrive à comprendre que c'est le corps de Christ, c'est parce que Jésus l'a dit. Voilà le mystère de la foi, le sujet de la foi. Et donc, la trappe de Corbie, non, c'est un symbole, mais qui ne contient pas en vérité réellement le Christ. Ça va être pris par quelqu'un d'un peu plus connu, au 11e siècle, Béranger de Tours. Béranger de Tours, premier grand hérétique sur l'Eucharistie, célèbre pour ça. Pour lui, le pain et le vin consacrés ne sont pas le vrai corps et le vrai sang, mais une figure et une image. Et pour bien préciser, il dit, le pain reste du pain. C'est toujours du pain. Mais, en plus d'être du pain, il se charge d'une signification nouvelle, d'une force spirituelle. Quand je le reçois, ce pain, qui est que du pain, sa réalité, en même temps, je m'unis spirituellement à Jésus qui est tout ça. Et c'est une manière d'expliquer, qui est hérétique, parce qu'elle ne correspond pas à la vérité de la parole. Ceci est mon corps. Ceci, chose qui est devant moi, est. Et à chaque fois qu'il y a une hérésie, l'Église reviendra à cette vérité de la formule du Christ. On ne peut pas réinventer l'Eucharistie, ça aurait été très bien d'imaginer un truc où Jésus se donne par symbole, pourquoi pas, mais ce n'est pas ce qu'il nous a dit. Ce qu'il nous a dit, c'est ceci est mon corps. Et donc, moi, la foi, je dis très bien, ceci, là, que je vois, c'est le corps de Jésus. Ce n'est pas un symbole, c'est une invention, c'est le corps de Jésus. Donc, Béranger de Tours s'éloigne de cette vérité, réellement, d'abord faire une confession de foi publique, ce sont les bonnes mœurs de l'époque, il va reconnaître son erreur, mais il va pouvoir quand même rectifier l'erreur qui est profonde, qui est nouvelle, et c'est à ce moment-là qu'apparaît dans l'Église le terme si attaqué depuis, et si important, de transsubstantiation. Pour, on sait, suite à l'hérésie de Béranger de Tours, qui nous dit c'est toujours du pain et ça représente le Christ, que l'Église dit non, c'est le corps du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la substance, la chose que j'ai en face de moi, c'est-à-dire ce qu'est la chose, ce que je dis en disant c'est du pain, je désigne la substance du pain. C'est un arbre, je désigne la substance de l'arbre. Ce qu'est la chose. La substance, c'est ça. C'est ce qui se tient en dessous, sous terre, en dessous de quoi? En dessous des accidents. On fait un peu de métaphysique, et vous allez voir qu'on est obligé. Les accidents, c'est ce qui change. L'arbre, il grandit, il a des couleurs différentes, il change, il évolue. Les accidents changent. Mais il reste le même, il reste cet arbre, il reste cet arbre. Donc sa substance ne change pas. Voilà l'idée. Substance, accident. Substance, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, on va dire. Et l'accident, c'est ce qui est à l'extérieur, qui se voit. C'est ce qui touche mes sens, d'ailleurs. Et qui me désigne la substance qui est à l'intérieur de la réalité. Eh bien, l'idée de saint Thomas d'Aquin et des conciles à partir de l'hérésie de Béranger de Tours, ça va être que la seule manière d'expliquer que ça, l'hostie, c'est le corps de Jésus, la seule manière de l'expliquer, d'en rendre compte, c'est de dire les apparences, ce qui touche mes sens, n'a pas changé, les accidents ne changent pas, ils demeurent. Mais la réalité substantielle, ce qu'est la chose que j'ai en face de moi, ça a changé. Avant les paroles de consécration, en face de moi, c'était du pain, substance du pain. Après les paroles de consécration, ce que j'ai en face de moi, c'est le corps de Jésus. C'est une autre substance, substance du corps du Christ. Et donc on est passé d'une substance à une autre, c'est une transsubstantiation. Et non pas simplement une transformation. On évoquera toutes ces choses-là une autre fois. Mais c'est ainsi que l'Église, à partir de l'hérésie de Béranger de Tours, dit qu'il n'y a que comme ça qu'on peut rendre compte du mystère de la présence réelle. Et c'est saint Thomas d'Aquin, tout particulièrement, qui va développer et approfondir cette réalité. On verra ça la prochaine fois. C'est extraordinaire de simplicité. Alors, notre transsubstantiation, ça fait compliqué, parce qu'on met des mots de métaphysique. Mais quand on a compris que la substance, c'est ça, ce qu'est la chose, l'enfant qui dit « c'est Jésus » et le théologien qui dit « la substance du pain s'est convertie dans la substance du corps de Jésus », ils disent exactement la même chose. C'est le corps de Christ. Qu'est-ce que c'est? C'est le corps de Christ. Et c'est la substance. Et les accidents, ça ressemble à du pain. On voit bien que c'est pas, ça ne ressemble pas au corps de Jésus, dit le petit enfant. Mais il croit que c'est le corps de Jésus. C'est le même effort que essayer de faire la métaphysique et la théologie médiévale quand elle va parler de la transsubstantiation. Appuyée sur une métaphysique réaliste qui dit que ce que j'ai en face de moi, c'est des substances qui existent vraiment et qui se cachent sous des accidents qui m'apparaissent à moi. On appellera des phénomènes en philosophie moderne. Sauf que dans la philosophie moderne, on s'arrête au phénomène. Ce qui pose un vrai problème, d'ailleurs, je ne crois pas. Les philosophies modernes sont intéressantes, hein, mais je ne crois pas, par exemple, qu'on peut être phénoménologiste et utiliser la phénoménologie et la philosophie en vogue actuellement pour défendre l'Eucharistie. On ne peut pas. Et les textes récents du magistère nous le montreront bien. En quelque sorte, c'est assez intéressant de le voir, seule une métaphysique, une philosophie réaliste, celle qui nous vient d'Aristote, qui a été christianisée par Plotin et les platoniciens en partie, et qui arrive à saint Thomas, seul ce système philosophique réaliste, saint, peut nous permettre d'approfondir le mystère de l'Eucharistie. Je ne dis pas qu'un phénoménologue ne doit pas avoir la foi dans l'Eucharistie, et que l'instrument qu'il utilise n'est pas satisfaisant pour éclairer en vérité le mystère de l'Eucharistie. Il y a une saine philosophie qui C'est au service de la théologie. Et tous les systèmes philosophiques ne marchent pas pour rendre compte du mystère de la foi. Et là, il y a un aspect sans doute assez providentiel, voir que la philosophie grecque est celle qui s'est répandue dans l'Église et qui a été, dont l'Église s'est servie pour rendre compte du mystère de la foi. Saint Jean nous parle du logos. Saint Jean nous parle du logos. C'est révélé. Logos, c'est un terme philosophique grec. Et c'est ce mélange des deux, de la foi, la révélation divine, et de l'instrument d'une philosophie saine, réaliste, issue des Grecs antiques, et qui va se transformer et qui va arriver jusqu'à saint Thomas à un mélange, à une unité admirable, ça me semble tout à fait providentiel. Et s'en écarter pour utiliser des systèmes de pensée nouveaux, idéalistes ou phénoménologues, pour décrire l'Eucharistie, vous allez voir, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Donc, transsubstantiation, le mot fait peur, mais il est tout simple. Et il va permettre de rendre compte du mystère. Saint Thomas d'Aquin, on creusera la fois prochaine comment ça fonctionne, tout ça. Mais avançons, puisque je pense que si on s'était arrêté au XIIIe siècle, c'est la fin du monde au XIIIe siècle, ça aurait été merveilleux. Bon, on a fait des progrès en matière de réflexion, de la foi et tout ça. Mais on atteint quand même un sommet dans la contemplation du mystère. Vous lirez ce soir dans notre chambre l'hymne du Pangelimboa que j'ai vu tout à l'heure de saint Thomas, dans l'hymne de Fait Dieu. C'est fabuleux. De puits on ne fait qu'embrouiller. C'est des saint Thomas. Mais du fait qu'il y a eu des embrouillages, des embrouillements, qui vont servir à approfondir d'autres aspects, et notamment le protestantisme. Le protestantisme, on va essayer de résumer rapidement ce qu'il attaque, parce qu'on fait beaucoup d'erreurs dessus. Le protestantisme, d'abord, c'est des personnes. C'est des personnes qui ont émis des doctrines, qui ensuite se sont développées en système. Mais Luther, par exemple, croyait en la présence réelle. Il croyait mal, mais il croyait. J'explique un peu. Luther, fondateur du luthérianisme, mais protestant, tout ça. Luther croit dans la présence réelle, substantielle, du Christ dans le pain et le vin. Pour lui, ce n'est pas un symbole, ce n'est pas qu'un symbole. Il a d'ailleurs même s'opposer beaucoup à un autre protestant, Zwingli, qui lui dit autre chose, mais qui est très important, c'est lui qui l'a gagné. C'est Zwingli qui l'a gagné. Donc Luther prend la présence réelle, mais il refuse la transsubstantiation pour expliquer la présence réelle. Il dit, c'est le corps de Jésus, c'est vrai, avec toute la vérité de la foi, mais c'est aussi Dieu. Et pour lui, en gros, c'est les deux en même temps. Qui n'est pas possible si on réfléchit en métaphysique, mais ça ne gêne pas. Ça va devenir une sorte de, si vous voulez, ce n'est pas une transsubstantiation, le changement d'une substance dans une autre, c'est une consubstantiation. Il y a deux substances dans la même réalité. Ce qui est impossible en réalité parce que la substance, c'est ce que c'est. En métaphysique normale, si c'est du pain, ça n'est pas le corps du Christ. Si c'est un arbre, ça n'est pas une fleur. Si c'est un... Il n'y a qu'une seule définition, réalité, substance dans une chose. Luther, il force un peu la même chose. Et donc, pour lui, c'est à la fois entièrement le corps du Christ et c'est à la fois entièrement le pain. Consubstantiation. Donc, on n'est plus déjà dans la vérité du Christ qui dit c'est le corps du Christ. Si vous dites c'est du pain, après la consécration, forcément, à un moment donné, vous direz c'est le corps du Christ. Et c'est ce que Luther vient par dire. Parce que son système ne marche pas, et si bien que pour lui, il y a quand même, c'est un peu plus du pain que le corps du Christ. La preuve, c'est qu'une fois la messe terminée, il y a l'une des deux qui gagne. L'une des deux substances qui gagne. Une fois que la messe est finie, ça n'est plus du pain. Ça, Luther l'enseigne. voyez les échos que ça peut avoir avec certaines erreurs modernes. Pour Luther, ça n'est le corps du Christ que pour être reçu et consommé. Donc si l'hostie n'est pas reçue et consommée, il n'y a pas de communion, l'hostie redevient ou est simplement du pain après. Vous voyez ? Notez ça. Si bien que sa théorie va dériver après chez les disciples en sorte d'impanation. Alors, l'impanation n'est pas chez Luther, c'est après. Et l'idée de l'impanation, c'est le système de l'incarnation mis pour l'Eucharistie. De même que la personne du Verbe assume une nature humaine pour ne faire plus qu'une, pour ne mettre plus qu'une seule personne avec deux natures, de même, la personne du Verbe, avec son corps quelque part, assume en plus le pain. Donc c'est la nature du pain, elle est là, la nature du pain, mais c'est la personne du Christ, c'est le Christ. Donc, vous voyez comment on complique les mystères, complique la réalité, parce qu'on se retrouve avec trois réalités substantielles, le Verbe incarné, son corps, le pain, tout ça mélangé de manière un peu curieuse, ça ne va pas tenir très longtemps. L'impanation. Ce qui va tenir beaucoup plus, c'est la position de Zwingli, qui elle est beaucoup plus radicale pour lui. En gros, l'Eucharistie, c'est un symbolisme total. Ceci est mon corps, ça veut dire ceci figure mon corps. C'est un symbole d'une nutrition spirituelle et donc d'une présence spirituelle de Dieu dans l'âme, qu'il suit quand on commune. Et c'est cette idée-là qui va devenir de plus en plus présente dans la Réforme et chez les protestants. La célébration prend son importance dans la signification qu'elle a aux yeux des fidèles. Il y a présence réelle, il y a présence du Christ lorsque je crois qu'il y a présence du Christ. Et vous voyez comment le mystère va devenir totalement dépendant de la signification que j'en ai. C'est plus simple. Il y a un certain respect dans la présence réelle en disant ça. Non. L'Eucharistie qui est jetée dans le caniveau, l'Eucharistie qui est utilisée pour des messes noires, l'Eucharistie qui est consommée par un pécheur, l'Eucharistie. Un certain respect qui fait dire non, c'est pas le corps de Christ, c'est pas ça qu'il a voulu. Donc, c'est le corps de Christ que pour ceux qui y croient. C'est gentil, mais c'est pas.